Ouverture, ubi tu. Il existe des moments où la compréhension ne progresse plus par accumulation. Quelque chose change alors, plus discrètement. Le besoin d'ajouter diminue. Le besoin de démontrer aussi. Ce qui devient important n'est plus d'obtenir davantage, mais de reconnaître plus clairement ce qui était déjà là. UB2 naît dans cet espace, non comme une affirmation nouvelle, non comme une proposition à suivre, mais comme une tentative de clarification. Une architecture fondamentale ne s'impose pas. Elle apparaît lorsque certaines relations deviennent lisibles, entre structure et présence, entre fonction et continuité, entre ce qui organise et ce qui demeure vivant. Dans ce regard, le mental n'est pas rejeté. Il retrouve simplement sa juste place. Nommer devient alors un acte sobre. Observer devient plus précis. Et certains termes, parfois longtemps utilisés sans stabilité, commencent enfin à prendre une forme plus cohérente. UB2 ne cherche pas à produire un système fermé. Il ouvre plutôt un passage où lire, comprendre et relier peuvent redevenir un même mouvement. Sans tension, sans obligation, sans recherche d'effet, seulement avec assez de calme pour laisser apparaître une cohérence plus profonde. Avant-propos, ce livre n'a pas été conçu pour s'ajouter à une accumulation. Il ne répond pas à une intention d'élargissement quantitatif. Sa présence tient plutôt à la nécessité de fixer un premier niveau de structure, devenu suffisamment lisible pour être tenu sous forme continue. Ce qui apparaît ici ne constitue pas un système fermé. Aucune totalité n'est revendiquée. Aucune prétention d'achèvement n'est avancée. Il s'agit d'un état de travail rendu visible à partir d'un seuil où certains éléments cessent d'être isolés pour commencer à se tenir ensemble. Plusieurs formulations pourraient encore être déplacées. Certaines relations demanderont peut-être d'être reprises autrement. Mais ce premier état possède déjà une cohérence suffisante pour ne plus demeurer dispersé. Le texte ne demande pas d'adhésion. Il ne propose pas un cadre à adopter. Il rend simplement possible une lecture plus stable de certains agencements qui jusque-là demeuraient partiels. Ce livre ne constitue pas un aboutissement. Il correspond à une première tenue, une base provisoirement stabilisée. Ce qui suit ne cherche donc pas à conclure. Il cherche seulement à rendre possible une continuité de lecture. Cadre méthodologique. Le texte qui suit ne doit pas être abordé comme un ensemble clos. Il ne repose pas sur une progression destinée à conduire vers une conclusion finale. Chaque partie s'inscrit dans une logique de clarification progressive où certains éléments deviennent lisibles à mesure qu'ils sont replacés dans un ordre plus stable. La lecture peut donc demander de ne pas chercher immédiatement une totalité. Certaines formulations n'ont de sens qu'en relation avec ce qui apparaît plus loin. D'autres prennent appui sur des distinctions déjà introduites, sans être répétées à chaque étape. Ce livre ne propose pas une démonstration. Il ne cherche pas non plus à imposer une terminologie. Les termes retenus ici servent uniquement à maintenir certaines différences nécessaires à la lisibilité de l'ensemble. Ils ne doivent pas être compris comme des catégories définitives. Ils agissent comme points de tenue provisoires. La progression du texte repose ainsi sur une stabilisation graduelle. Chaque chapitre ajoute un niveau de précision sans annuler ce qui précède. Ce qui peut sembler simple au début devient parfois plus structuré à mesure que certaines relations apparaissent. Il n'est donc pas nécessaire de chercher à tout fixer dès la première lecture. Ce livre peut être lu comme un premier niveau de mise en ordre. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Partie 1. Origine fondamentale réelle. Chapitre 1. Avant toute différenciation, avant qu'une structure puisse être observée, décrite ou comprise, il existe toujours un niveau qui ne procède pas encore de l'organisation visible. Ce niveau ne se laisse pas saisir par les seules catégories fonctionnelles, car il précède déjà ce que les fonctions tenteront plus tard de rendre lisible. Dans le corpus maître, Ce premier niveau ne peut être approché qu'en distinguant immédiatement ce qui relève de la relation fondamentale et ce qui relève de la structure. C'est pourquoi le terme « père » demeure premier, non parce qu'il désignerait une priorité de pouvoir, mais parce qu'il indique l'origine relationnelle, avant toute mise en forme. Le père n'est pas d'abord un principe d'organisation. Il désigne ce par quoi une réalité peut être reconnue, comme procédant d'une origine qui n'est pas étrangère à elle-même. Il y a dans ce terme l'idée d'une filiation possible, c'est-à-dire d'un lien qui n'est pas produit par juxtaposition, mais qui existe avant même toute tentative de définition. Lorsque ce niveau relationnel n'est pas distingué, toute architecture devient facilement impersonnelle, car la structure seule ne suffit jamais à rendre compte de ce qui fait qu'un être peut reconnaître son origine, sans rupture. Mais la relation seule ne suffit pas davantage. Très tôt apparaît la nécessité d'un second terme, créateur. Le créateur ne désigne pas ici une simple puissance d'action. Il indique le niveau où l'origine devient capable d'organisation. Créer signifie alors ordonner, déployer, maintenir, rendre possible une cohérence active. Là où père désigne la relation, créateur désigne la structure. L'un sans l'autre produirait immédiatement une lecture incomplète. Relation sans structure devient indéterminée, structure sans relation devient extérieure. C'est pourquoi très tôt apparaît l'expression « père créateur ». Cette expression ne désigne pas une troisième réalité distincte. Elle désigne l'unité simultanée des deux premières. Lorsque la relation agit déjà dans la structure et lorsque la structure demeure encore traversée par la relation, le terme juste devient « père créateur ». À ce niveau, l'origine n'est plus seulement pensée comme provenance. Elle devient intelligible comme cohérence première. Mais avant même que cette cohérence puisse être lue dans ses fonctions, un autre terme devient nécessaire. Source. La source désigne ce qui précède encore les distinctions. La source n'est pas encore relation nommée, elle n'est pas encore organisation lisible. Elle désigne ce qui rend possible qu'il y ait ensuite relation et structure. La source est antérieure à la fonction. Elle n'annule pas les termes précédents, elle les contient à un niveau où la différenciation n'est pas encore exprimée. À partir de là, une autre nécessité apparaît, celle du centre, car une origine qui ne posséderait aucun centre deviendrait immédiatement dispersion. Le centre désigne donc la stabilité absolue, non pas un lieu géographique, non pas une position, mais un point de cohérence où rien ne dérive. Le centre est ce qui empêche l'origine de devenir abstraction. La source peut être pensée comme provenance absolue, le centre comme stabilité absolue. Et lorsque les deux sont maintenus ensemble, apparaît la nécessité d'une formulation plus précise, source-centre-première. À ce niveau, il n'est plus possible de parler d'origine sans reconnaître qu'elle est déjà parfaitement stable. La source-centre première n'est pas une addition de concepts. Elle désigne une indivisibilité. Ce point est capital pour tout le reste du livre, tant que l'origine est mal comprise. Tout ce qui suit devient approximation. Car les développements ultérieurs ne corrigent jamais une origine mal lue. Ils prolongent seulement ses conséquences. C'est pourquoi la première exigence du corpus maître n'est pas de multiplier les termes, mais de stabiliser le regard sur ce qui précède toute multiplication. À partir de là seulement peut apparaître ce que nous avons nommé première expression, car toute origine qui demeure totalement fermée à l'expression resterait inaccessible à toute architecture. La première expression désigne donc le premier seuil où l'origine devient lisible sans perdre son unité. Elle n'est pas encore Déploiement. Elle n'est pas encore multiplicité. Elle est simplement le premier niveau où l'origine devient perceptible. Et dès que cette expression existe, une autre réalité apparaît immédiatement. L'origine coordonnée. Car si plusieurs dimensions premières existent déjà, sans contradiction, alors il faut reconnaître qu'elles procèdent d'une coordination plus profonde que la simple juxtaposition. L'origine coordonnée indique que l'unité n'est pas uniforme, mais parfaitement accordée. Puis apparaît la différenciation première, non comme rupture, mais comme distinction sans fracture. Les fonctions commencent alors à devenir possibles. Et avec elles apparaît la première architecture, c'est-à-dire le premier ordre où les distinctions deviennent structures actives.